Franchement, j'étais très bien. C'était très bien, mais c'était trop attendu. C'est-à-dire, le déclic, ça a plutôt me dire, bon, bah voilà, de 25 à 40 et des poussières, j'ai fait ça. Aujourd'hui, si je bouge pas maintenant et j'invente pas autre chose, je risque de rester là, confortablement installé, jusqu'à 60 et plus. Et donc l'idée, c'était d'arriver à casser avec ça. J'ai envie de dire merci à ta femme qui m'a soutenu, parce que c'est pas facile, hein, honnêtement. Quelqu'un qui est jamais là, ou quand on part tous les vendredis avec trois enfants dans une petite voiture, et qu'on arrive et que le mec est pas là, et qu'il est encore en train de s'occuper des clients. Voilà. Donc ça aussi c'est important. Par moments, je regarde le chemin parcouru depuis le mauvais élève qui s'est fait virer d'école non-stop et on voulait pas entendre parler. Et après, certains, les directeurs de ces mêmes écoles qui, 4 ans plus tard, vous appellent. Ça, c'est à un moment, c'est un petit peu une revanche. Croire en soi, croire en sa petite étoile, oser y aller. Voilà, peut-être moi, dans mon éducation, perso ou familiale, finalement, il y a un côté jamais rien lâcher, quoi. Toujours jusqu'au bout.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui vous invite à écouter votre petite voix. Dans ce podcast, j'ai à cœur de raconter l'histoire de personnes au parcours varié et, comme vous l'aurez compris, de montrer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait de grandes études pour être heureux et épanoui. Si je vous parle du Country Lodge, vous pensez à un petit havre de paix dans le Perche où les familles aiment se ressourcer. Si vous aimez les magazines de déco ou de lifestyle, impossible d'être passé à côté. Mais savez-vous qui se cache derrière ce projet fou ? Arnaud est un Parisien, père de 3 enfants, qui n'était pas vraiment doué pour les études, mais pour la nature et le business. Avec son bac, obtenu à 22 ans, il monte son entreprise dans l'événementiel qu'il revend ensuite à sa grande surprise. À 40 ans, il décide de sortir de sa zone de confort pour créer le Country Lodge. Pour Arnaud, le podcast est une nouveauté. J'ai l'honneur d'être la première à l'interviewer. Je vous dis bienvenue dans l'univers d'Arnaud Douin. Bonjour Arnaud.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler des deux objets que tu as ramenés pour te présenter, s'il te plaît ?
Alors oui, j'ai ramené un couteau, celui-là n'est pas suisse, mais c'est vrai que j'ai vu qu'on parlait un peu d'entrepreneuriat, le couteau suisse a son utilité. Là c'est un couteau fétiche, un couteau que j'aime bien, qui est un couteau de la marque Perceval, un joli couteau en bois que j'ai toujours sur moi. Et sinon j'ai ramené aussi un livre, c'est un livre d'un écrivain qui m'amuse, qui m'intéresse ou m'interpelle on va dire. C'est un livre qui s'appelle La Panthère des Neiges et c'est un livre de Sylvain Tesson. Et souvent, j'entends quelquefois des phrases ou des citations de sa part qui me parlent, type tant qu'il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu.
C'est une bonne citation pour rebondir sur ta vie de maintenant. Donc, tu as le Country Lodge. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie de maintenant et après, on repartira sur ta vie d'avant?
Ma vie de maintenant, ma vie de maintenant, c'est d'avoir rassemblé un peu tout ce que j'aimais, toutes mes passions, toutes mes aspirations, on va dire depuis mon plus jeune âge.
C'était quoi tes passions ?
J'ai toujours aimé l'élevage, la construction bois, voilà, fabriquer des choses de mes mains, la vie au grand air, la campagne est, sous toutes ses formes, la nature. Oui, j'ai toujours aimé la nature et limite, j'ai besoin de la toucher, de la palper, d'entourer un arbre, limite de me vautrer dedans, ça me rappelle presque une séquence du livre de Susskind, Le Parfum, où l'homme en question vient se vautrer dans une petite alcôve, dans une grotte, et c'est là qu'il se sent bien. Et d'ailleurs, ce qui l'illustre le mieux, c'est tout d'un coup, mes amis se sont mis à m'appeler d'un nouveau sobriquet. Je suis devenu pour eux l'homme qu'ils appelaient la bête. Oh, attention, voilà la bête! Je ne sais pourquoi, mais finalement, avec cette vie au coup de Trilodge, je l'ai assez bien illustré, ce surnom, la bête. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'était de pouvoir revivre ça, et puis également, surtout, le faire découvrir et pouvoir le faire partager à d'autres. Donc, effectivement, j'ai eu une vie avant, qui était aussi une vie entrepreneuriale. Et puis, passé 40 ans, je me suis dit, j'ai eu envie de... Enfin, j'aurais pu rester dans cette vie d'avant tout le temps, parce qu'elle était très confortable.
C'était quoi, cette vie d'avant ?
J'avais créé une entreprise qui est, d'ailleurs, puisqu'elle existe toujours, elle se développe bien et tout va bien. Et je salue tous ceux qui continuent à gérer actuellement et tous les équipes que j'avais avant et qui sont toujours là. Ça s'appelle StratEvent, c'est une agence événementielle qui organise des séminaires d'entreprise, tourisme d'affaires, et qui a son siège à Paris et qui a 4-5 filiales en Europe. Et voilà, c'est une entreprise qui s'est bien développée, qui a bien fonctionné et que j'avais cédé en 2006 et qu'après j'ai continué à diriger pendant 10 ans parce que je m'entendais très bien avec les gens avec qui j'étais.
Tu l'avais vendu à un fonds ?
Non, je l'ai vendu à une... Enfin, je l'ai vendu. Une entreprise est venue me voir en me proposant de savoir si je voulais céder et rentrer dans un autre projet avec eux. Et c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai continué pendant 10 ans avec eux à diriger cette structure et à participer au développement du groupe de communication qui m'avait racheté. Voilà, mais c'était une situation où il y avait moins d'enjeux. J'étais plus salarié. Enfin, pardon, j'étais devenu salarié. Et la structure était plus la mienne, donc voilà, c'était un statut voilà, salarié, bien réglé, les deux structures fonctionnaient bien, et finalement, au bout d'un moment, voilà, comme je dis, il y avait moins d'enjeux, donc passé 40 ans, je me suis dit, tiens, faudrait que je fasse autre chose, peu importe quoi.
Quoi le déclic ? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit... J'en peux plus, un événement dans ta vie ou...
Non. Franchement, j'étais très bien. C'était très bien, mais c'était trop attendu. C'est-à-dire, le déclic, ça a plutôt de me dire, bon, bah voilà, de 25 à 40 et des poussières, j'ai fait ça. Aujourd'hui, si je bouge pas maintenant et j'invente pas autre chose, je risque de rester là, confortablement installé, jusqu'à 60 et plus. Et donc l'idée, c'était d'arriver à casser avec ça, et je me suis un peu fait violence, et puis ça a mis un peu de temps, parce que tout fonctionnait bien, et que les associés, ils n'avaient pas forcément envie que je parte à ce moment-là. Il fallait leur prouver que je laissais quelque chose derrière qui tenait la route, qui tiendrait encore la route, et qui tient toujours la route d'ailleurs. Et puis moi, repartir à zéro, je venais de découvrir... j'avais pris femme, et je commençais à avoir un enfant, deux enfants, trois enfants, et tout ça. Donc je ne pouvais pas non plus me planter trop, et... Voilà, donc il y a une période un peu de pause.
Comment t'as fait un jour, donc tu leur as dit « j'aimerais partir, j'aimerais avoir mon projet ». Est-ce que tu savais déjà ce que ça allait être, ton projet ?
Ouais, je le sentais au fond de moi, je le sentais, c'était toujours un peu ça, j'avais même déjà commencé. C'est-à-dire que voilà, il a fallu 3 ans pour...
Quand tu dis que t'avais déjà commencé fois,
Pour revenir sur... Quand je l'ai dit une première fois... ça et tout ça, je me suis fait envoyer bouler, non mais hors de question, jamais et tout. Et puis je suis revenu à charge 6 mois plus tard, puis 6 mois plus tard, puis 6 mois plus tard. Et à la fin, ça s'est fait très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je faisais ? Bah, justement, comme tout allait bien et que c'était confortable, je travaillais un peu moins, et un peu de moins en moins, c'est aussi ce qui me disait, mais faut que tu repartes sur autre chose. Et le week-end, comme la vente de la première structure m'avait permis de m'installer un petit peu, j'avais rien au départ du tout, et ça m'a permis de m'installer, d'avoir un appartement à Paris, et ensuite d'acheter une résidence secondaire, comme on va dire. J'allais de plus en plus dans cette maison de campagne.
Qui était dans le Perche. Pourquoi le Perche ?
Je suis originaire de là.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a un endroit familial à côté.
T'as grandi là-bas ?
Pas si loin. J'ai jamais grandi là-bas. J'y ai passé tous mes étés, mes vacances, okay. mes week-ends. Et donc, comme j'avais plus de temps, je partais de plus en plus là-bas.
Okay.
Et je construisais des cabanes.
Qui étaient pour tes amis, pour ta famille ?
Ouais, pour le fun, pour faire un peu des petits délires architecturaux, on va dire. Alors que je ne suis pas quelqu'un de rangé ou de méticuleux. Voilà, c'était un peu du grand n'importe quoi.
Ça te plaisait ?
Et ça me plaisait, Et au bout d'un moment, ça a commencé à plaire. C'est-à-dire que j'avais construit une première cabane au bord d'un étang où en fait on avait récupéré. Il y avait un grand-père qui d'un village à côté qui décidait d'enlever toutes ses fenêtres bois jolies d'un pavillon, mais elles étaient en bois petits carreaux et il passait au PVC. Et il m'a dit bah tiens, embarquez-les, je sais pas quoi en faire. Et je me suis dit tiens, qu'en faire ? Et on les a tous imbriqués les unes dans les autres, soit 16 fenêtres ou 20 fenêtres, qui se sont mis les unes dans les autres et les unes au-dessus des autres pour faire une façade. Et ça a donné la façade d'une cabane qu'on a mis au milieu des bois, qui était un peu comme une verrière ou une orangerie et tout ça, et qui était autonome, complètement autonome, en eau, en toilettes sèches, compagnie. Et puis, après, on est parti en créer une deuxième.
Et quand tu dis « on »
il y avait un garçon dans le village, assez jeune, il avait 18-20 ans et qui était assez bricoleur.
D'accord.
On s'est bien entendu et comme à ce moment-là, il n'y avait pas de boulot, on le faisait ensemble.
D'accord.
On bricolait ensemble.
Tu le rémunérais ou c'était juste le plaisir?
Non, c'était juste pour le plaisir, pour qu'il gardait une activité. Okay. Il demandait à venir, on faisait ensemble. Et c'était sympa. Et d'ailleurs, après, il a trouvé un boulot qui était un boulot de pose de fenêtre dans une entreprise près de Paris. Et puis il s'était un peu posé là, et jusqu'au jour où tout d'un coup il est revenu. Et maintenant, il est une des pierres angulaires du Country Lodge.
Ah, génial.
Le nouveau projet où il travaille depuis quasiment le premier jour. Une fois que tout était
bien ficelé.
Ça permettait d'avoir des salariés, il a rejoint le projet. Et donc voilà, et la deuxième cabane qu'on avait faite, c'était une cabane qui était sous terre. On s'était dit, tiens, il y a des gens qui vivent sous terre, il y a des troglodytes, il y a des animaux qui vivent sous terre, on va créer une cabane enterrée. Donc là, la façade est complètement vitrée, fait rentrer la lumière, mais après la cabane part complètement en profondeur et va sous terre, et on voit la terre. Elle est assez sympa, elle est un peu tombée, ces cabanes sont un peu tombées à l'abandon, puisque après on est parti sur un autre projet, qui est effectivement le Country Lodge, mais ce qui a donné un petit peu l'idée, c'est aussi des gens comme vous, ou sur des podcasts, ou qui lançaient des trucs. Et là, il y avait une fille qui s'appelle Constance Génari, qui avait lancé un truc qui venait de commencer, qui s'appelait The Socialite Family.
Ouais.
Et Constance est venue sur place en me disant « Ah, ça m'éclate, j'aimerais faire des photos », et elle a fait des photos du truc.
Donc là, il n'y avait que les deux cabanes
qui n'avaient aucun but commercial, qui était juste un but de s'occuper les mains, bricoler, voilà. Elle en a fait des photos assez jolies, qui l'ont montrées à d'autres. Il y a El Déco qui est venu aussi, et puis je me suis dit, mais quoi, on construit des cabanes de briques et de broc avec des fenêtres ramassées et des planches de bois récupérées dans des palettes, et elles plaisent, elles amusent, et je pensais qu'elles plaisaient qu'à moi, quoi. Nous, on y passait des week-ends en famille, quelquefois on n'allait pas à la maison, on passait le week-end avec les enfants.
Ils avaient quel âge, tes enfants, à ce moment-là?
2 mois, 3 ans et 5 ans, quoi.
D'accord. Et t'es arrivé à trouver le temps avec un enfant de 2 mois de pouvoir faire des cabanes. Enfin, ta femme.
J'ai une femme exceptionnelle, femme qui travaille, mais qui arrive, qui est beaucoup plus organisée que moi. D'ailleurs, j'entendais un podcast que vous avez fait avec mon héros, mon idole, Jason Chicandier.
L'épisode numéro 2. Fin.
Exactement. Et ben, je l'entendais dire la même chose, qu'il avait une femme très organisée, et que c'était un des piliers de son histoire, c'est sa femme. On peut dire que pour moi, c'est pareil.
Mais c'est un sujet que je veux vraiment traiter dans Pourquoi pas moi, c'est le rôle de l'entourage, parce que je suis convaincue qu'on n'y arrive pas de la même façon en fonction du rôle de son entourage. Et c'est souvent quelque chose dont on ne parle pas.
Oui, c'est vrai. Mmh. Oui, derrière, elle est pourrie, parce qu'elle est un peu machiste, cette phrase, mais on entend toujours les gens dire, tout grand homme, il y a une femme oublieuse de soi. Ça va dans les deux sens, d'ailleurs. Mmh. Derrière toute grande femme, il y a sûrement un homme qui tient la route. Un petit homme qui tient la route, quoi.
Ouais.
Voilà.
Donc ta femme te soutient à fond dans ton projet?
Oh, c'est peut-être pas facile pour elle tous les jours, parce que c'est un peu une espèce de double vie, quoi, avec mon amante, la campagne, ou mes animaux. Vous voyez, au Country Lodge, on a maintenant plus de 150 animaux, et faut les nourrir, s'en occuper tous les jours et tout ça.
Donc là, il y a l'article dans The Socialite Family, t'as tes deux cabanes qui sont chouettes, mais pas du tout aucune vocation de se dire que ça va être commercialisé. Tu travailles toujours donc dans l'agence de com?
Ouais, je travaille toujours dans l'agence de com. Avant, j'avais eu comme j'avais toujours été attiré par ça et que ça était toujours resté, souvent les gens me reconnaissaient plus pas par l'agence de com, mais ils pensaient que j'étais un grand mongol et mongol de Mongolie, un grand yurteur. Et beaucoup de gens, parce que j'avais toujours eu des expériences de campement. Déjà, d'accord. J'avais été pas mal scout, pas mal machin. J'aimais bien, quelquefois, je sortais en boîte à Paris et le soir, j'allais dormir dans les forêts derrière Marne-la-Coquette en prenant une tente, on allumait un feu et on dormait dans les bois plutôt que de rentrer dans un appartement parisien. Voilà. Mais arrivé assez souvent de faire ça, où on partait ailleurs dès qu'on avait un accès à la campagne. On restait pas trop à Paris.
Les Mongols de Mongolie.
Ouais, voilà. Pendant toute cette période d'entreprise, j'avais voulu un peu faire ça. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on était un réceptif avec le côté événementiel et on proposait des séminaires dans des lieux qui ne nous appartenaient pas. Donc, on assemblait des produits, on créait un produit avec un lieu, une animation, un restaurant à côté, une sortie, un transport, un contenu. Mais rien ne nous appartenait. Et j'avais envie qu'on vienne dans un lieu qui était à nous. Et donc, dès 2002, j'avais cherché à acheter un lieu, une abbaye notamment, que j'avais vu près de Chartres. Et puis, j'avais révisé ma copie parce que, un, j'avais pas les moyens, peut-être les moyens de l'acheter l'abbaye, mais pas les moyens de l'entretenir, de lancer un hôtel et tout ça. Et pour pouvoir faire ce qu'on voulait faire, il nous fallait au moins 20 chambres.
Parce que là, t'étais avec un associé à cette époque-là ?
Non, j'étais tout seul. Ouais. Il y avait une personne qui avait des parts de la structure, mais qui n'était pas... active plus que ça. Elle avait aidé à lancer l'embryon. Enfin, à cette période-là, elle est devenue plus active ensuite. Ou plus partie prenante. Voilà, j'ai visité cette abbaye. On pensait pouvoir créer un lieu à nous, y mettre notre patte, notre art de recevoir et compagnie. Et ça ne s'est pas fait. Donc, comment trouver le moyen d'avoir des chambres et pouvoir recevoir un certain nombre de personnes sans que ça coûte trop cher. Et à cette époque, j'avais pensé avec une personne qui travaillait chez moi, qui s'appelle Adrien Dessade, qui me dit, mais pourquoi on ne penserait pas à des yourtes ? Et on savait à peine où était la Mongolie, on va dire. Et puis là, je suis parti dans un vieux coucou sur Aeroflot, à escale à Moscou, ça, et je me suis retrouvé en plein hiver en Mongolie, et sous douane, avec des locaux, j'ai commandé 15 yourtes, on a fait fabriquer 15 yourtes et 45 lits, et on a chargé ça dans un container par moins 45, j'ai scellé le container, et trois mois plus tard, on a reçu le contenu d'un 40 pieds qui était passé par la Chine et compagnie, et les yourtes qui étaient dedans. J'avais pas de terrain à moi, ouais, j'avais rien à moi.
Mais t'avais les yourtes.
J'avais des yourtes qui arrivaient, qui étaient en mer, et je ne savais pas où les faire envoyer. Et donc là, je me suis rapproché j'ai pris un annuaire de château autour de Paris et j'ai appelé un tel ou un tel en disant « Ah, j'ai un projet, est-ce que... » Et il y a une personne qui a dit oui et qui a dit « Ah bah tiens, oui d'accord, pourquoi pas, fais les livrer chez moi et on va monter un campement. »
C'était où ?
C'était à Seine-Port. Et Seine-Port, ça se trouve en Seine-et-Marne. Et c'est dans la vallée de la Seine. Et c'est un endroit très joli. Il y avait un parc qui appartenait à l'ONF. 250 hectares, et dans une clairière, on avait monté un campement d'yourtes. Et donc, ça a été mon premier rêve de cabane, ou mon premier réceptif cabane. Et donc, les gens, dans toute cette période, après, m'identifiaient à... Il y avait eu quelques petits passages télé sur les yourtes, et via nous.
T'étais monsieur yourte.
Voilà, j'étais monsieur yourte, docteur S. yourte. Je savais monter une yourte en France, on m'appelait souvent pour ça. Souvent, les gens ont beaucoup plus gardé ça. C'est marrant comme les gens peuvent garder qu'un certain côté de ce que vous faites. Quoi. Là, ils interprétaient. Voilà, j'étais ça, alors que c'était 1% de mon temps.
Et de ta vie.
Pourtant, j'étais que ça. Donc voilà, en ayant gardé un petit peu tout ça, toutes ces touches, toute cette envie de campagne, quand tout s'est arrêté avec StratEvent, j'avais commencé entre les cabanes que je construisais, le projet avait cheminé et il fallait donc que je trouve quelque chose à faire, et ça a été le projet Country Lodge, à savoir créer au milieu d'un champ un lieu de campagne où on va retrouver une campagne assez brute, authentique, telle qu'elle est, quoi, un peu une ferme, c'était des hébergements dans une ferme, on va dire. si possible avec une jolie vue, et ce qui est le cas, et un endroit protégé, coupé du monde.
J'ai eu l'idée de créer, ou l'envie de créer ce Country Lodge, ça a été l'accumulation de certains constats. On connaît tous le prix de l'immobilier dans les grandes villes, qui font qu'aujourd'hui, un jeune couple va acheter 50 mètres carrés et va vivre une vie de bohème absolument géniale quand ils sont un jeune couple. Puis tout d'un coup, il y a l'arrivée d'un enfant, quelquefois d'un deuxième et d'un troisième, et tout d'un coup, on se rend compte que dans 50 mètres carrés, on se sent vraiment à l'étroit. Après, il y a le constat de la ville où il y a des voitures partout, et un parent ne peut pas lâcher la main de son enfant. On voit des enfants de 5 ans, aujourd'hui, dont les parents les ont jamais eus à plus de 5 mètres 2, parce que dans Paris, à part dans un square, on ne lâche pas un enfant de vue ou de proximité à pouvoir courir en 2 mètres, l'arrêter, parce qu'il y a toujours une rue et une voiture qui peut l'écraser. Et aussi, je me suis rendu compte que la population, enfin les gens et les mœurs ont un peu changé. L'évolution fait qu'aujourd'hui, autrefois, les gens avaient des grands-parents qui avaient des racines à la campagne, ou des parents qui avaient des racines à la campagne. On disait « ma mère vient du Berry et mon père est normand ». Et on est monté travailler à Paris et les week-ends, ils allaient retrouver leurs racines normandes. Et là, on parle de gens qui ont peut-être 60 ans aujourd'hui. Maintenant, avec les mégalopoles et 13 millions, par exemple, ou 15 millions, on va dire, si on prend l'Île-de-France, on demande aux gens d'où ils viennent et où sont leurs parents. Le premier va répondre « Mon père est d'ici les Moulineaux et ma mère vivait dans le 18e. » Et les parents y habitent encore, donc ils n'ont plus ces racines. Et après, et aussi, il y a l'idée que les couples, avec tout le zapping qu'on peut faire aujourd'hui, il y a aussi le zapping du loisir, le zapping des vacances et le zapping de l'évolution un peu de la famille et de la vie, qui fait que, les gens ont aujourd'hui envie de pouvoir aller à Ibiza ou à Palavas l'été, l'hiver partir en Asie ou aller à la montagne, et puis décider que quand ils ont envie de partir à la dernière minute à tel ou tel endroit, et on veut plus de racines, on veut plus le poids d'une maison de campagne qui aliène, qui oblige à s'en occuper tout le temps, qui demande souvent pas mal de labeur. Donc voilà, le Country Lodge répondait à ça et répond à ça. Et et aussi un idée, il y a un côté, un aspect très pédagogique pour les enfants, puisqu'on aujourd'hui un enfant ne sait pas qu'un œuf sort du cul d'une poule, ou ne peut pas. Ils appellent un lapin, on appelle le lapin pampan, et ils en ont jamais touché en fait. Ils en ont vu que sur des écrans. Et là, tout d'un coup, l'idée c'était de proposer un contact direct avec le fumier, un contact direct avec un feu de bois, un contact direct avec les animaux, avec couper une branche, ramasser quelque chose, manger quelque chose, se baigner dans un étang. Un peu toutes les madeleines de Proust, les odeurs qu'on retrouve à la campagne. Et j'appelle ça des madeleines de Proust parce que chez nous, souvent, les parents arrivent et ils disent « Ah, ça me rappelle... » Les parents qui ont 40 ans aujourd'hui, ça leur rappelle plein de choses. Mais leurs enfants, ça leur rappelle souvent rien du tout. Et ils le découvrent et on veut le partager avec eux, tout ce qui est vraiment, tout ce qui est vrai, qui est authentique, qui ne se passe pas de manière virtuelle derrière un écran. Voilà, qui est accessible et le mettre à leur portée. Tout ça dans un univers un peu charmant, convivial, beau, où on laisse nous libre cours à la nature. On va dire voilà, nous les lapins, quand il y en a trop, ben on est amené à en manger. Quand dans un poulailler il y a 20 coqs, ben ça marche pas, parce que un coq, il y a autant de coqs et de poules qui naissent, et pourtant il faut un coq pour 5 poules. Et c'est pareil avec des moutons.
Du coup, tu as retrouvé un autre lieu, ou c'était l'endroit que vous aviez acheté précédemment avec ta femme ?
C'est exact, c'est ça. C'est que l'endroit qu'on avait acheté avait déjà un peu de terrain.
Okay.
Il y avait 5-6 hectares. Et puis, ça nous plaisait de plus en plus d'être là-bas, d'aller là-bas et tout ça. Donc, j'avais eu des opportunités d'acheter un truc par là, un hectare de plus. Et puis, un beau jour, je voulais racheter un hectare à un voisin et il m'a dit... non, j'en ai 15 ou 20, je sais plus, et c'est tout ou rien. Donc finalement, j'avais acheté ces terrains, j'étais pas agriculteur et je me retrouvais avec des champs inexploités. Donc j'y mettais des chevaux, j'entretenais tout ça, mais bon, finalement, il fallait leur trouver une utilité. Et s'ils m'ont été vendus, ces champs, c'est parce qu'ils étaient complètement impropres à la culture, en tout cas. Je veux dire, c'était des chandrons, c'était de silex. Personne ne voulait faucher dedans. Et voilà, on pouvait y mettre quelques bestiaux, mais c'était vraiment pas riche, quoi. Et puis, à force de... un, de m'en occuper, et puis deux, d'aller dans la clairière en question, qui est la clairière où on a construit le Country Lodge. Souvent, on y allait prendre l'apéro, on s'installait les tapis et tout ça, et on se trouvait tellement bien là-bas. Coucher de soleil était absolument canon. Que voilà, tout ça, et j'ai plus trop l'échelle du temps, mais tout allait un petit peu ensemble, quoi. Et j'ai commencé à essayer de poser un projet, ce qui n'est pas facile en France, puisque... la construction est quand même très réglementée, surtout dans un endroit. Enfin, c'est un endroit qui est... on est dans un parc naturel, c'est le parc naturel régional du Perche. Et fallait prouver de l'intérêt du projet et aussi du non-intérêt de cette terre pour autre chose que ça, puisque en termes d'agriculture, et à la limite, le fait que ce soit un terrain qui était. Une colline qui était plutôt de silex était intéressant pour mon projet du fait que justement ça fait pas de boue, ça patauge pas, voilà. Et donc il a fallu convaincre et les pouvoirs publics et les conseils des différentes villes, les communautés de communes et aussi des instances qui sont là pour faire garder tout ce qui est agricole reste agricole. Et voilà, et après avoir convaincu tout ce monde-là, le projet a pu démarrer. Enfin, il a pu démarrer.
T'as dû lever des... Enfin, comment t'as fait pour
J'ai
financer
déjà dû
le...
déposer. Eux, ils ont commencé à tous dire « Ouais, le projet nous plaît
».
Ce qui a beaucoup aidé au moment du... Après, j'ai décidé donc, de déposer un permis. Ça a aidé à obtenir le permis puisque les acteurs économiques de la région étaient plutôt pour. Et après, il a fallu aller trouver de l'argent. Voilà, il a trouvé de l'argent. Ça s'est fait auprès de banques.
D'accord. Ça n'a pas été compliqué, parce que c'était quand même un projet un peu original à l'époque, j'imagine.
Ouais, c'était compliqué, c'était étonnant. Ma banque, dans laquelle j'étais après une vente de société, est la seule qui m'a refusé, alors que c'est la seule
c'est
qui
me connaissait comme ça,
depuis 25 ans, depuis 30 ans. Hallucinant. Même pas, enfin, j'ai même pas envie d'en parler tellement, c'est la BNP quand même. Et voilà, elle a dit, il y a une personne qui suivait à fond dedans et qui disait génial le projet, et puis il a été demandé au responsable, et ça, voilà, ça n'a pas suivi. Et alors qu'à d'autres banques qui, elles, ne me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, on n'avait rien fait, pas vu, pas pris, elles ont tout de suite dit oui, j'avais pas un euro chez eux, j'avais pas un...
Mais c'est souvent comme ça, que ça soit un projet, moi je vois projet immobilier ou projet de boîte, c'est rarement la personne qui te connaît le mieux qui te dit oui en termes de banque.
Ouais. Pourquoi pas ? Pourtant, dans mon parcours, ils avaient vu que c'était assez constant, ils avaient vu que j'étais hyper précautionneux et pas du tout joueur ou quoi que ce soit, et c'est eux qui étaient venus me chercher. Bon, peu importe. Finalement, on a fait ça avec la Société Générale et le Crédit Agricole. Et ça se passe très bien, et aujourd'hui, je pense qu'il ne le regrette pas, et moi non plus.
Ouais.
Voilà. Et puis quelques, bien sûr, plus pour le soutien, le côté friend and family. Et là, c'est plus pour un soutien un peu psychologique, un soutien de son entourage. C'était pas forcément pour un montant, c'est plus...
C'est quel type de personne à qui tu as demandé, du coup, dans les friends and family ?
Parents, beaux-parents, mais on parle pas on parle de petites sommes. Et copains proches à qui on a balancé le dossier. Et ça donne du cœur à l'ouvrage de se dire « Ah tiens, ce pote, il est capable de dire « Ouais, je te suis ». Ils l'ont fait ni pour l'argent, ni pour machin. Ils l'ont fait pour... parce qu'ils croyaient au projet. Et
en toi aussi, sûrement.
Et peut-être, ouais. Et ça aide, voilà.
Ouais.
Bon, franchement, ça aide de sentir que l'entourage dit oui, quoi. C'est vrai que si tout le monde vous dit... Si les noms viennent de tous les côtés, au bout d'un moment, il faut peut-être se poser une question.
Il y a des gens qui, dans ton entourage, t'ont dit tu fais n'importe quoi ou...
Non.
Non, personne ?
Non, non. Bon, après, j'avais la chance d'avoir déjà fait un truc qui avait fonctionné et qui fonctionne toujours, donc c'était pas exactement la même. J'étais déjà classé dans le côté entrepreneur, on va dire. J'ai jamais été salarié dès le début.
D'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as été entrepreneur directement? Parce que bon, aujourd'hui, maintenant, les jeunes, quand ils commencent à bosser, ils disent non, mais moi, je veux pas être salarié, je veux être entrepreneur. Mais comme tu as la quarantaine,
la quarantaine passée.
N'était pas le cas. Enfin, c'était pas du tout un courant d'être entrepreneur il y a maintenant une vingtaine d'années.
Pour moi non plus. Mes parents sont pas entrepreneurs.
Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier ?
Mon père était au Crédit Agricole. Il a fait une carrière très sympa et bien au Crédit Agricole, mais voilà, il est resté constant toute sa vie là-dedans. Et enfin, toute sa carrière plutôt. et voilà, et ma mère s'occupait de ses enfants plutôt.
Vous étiez combien d'enfants ?
Quatre enfants. Et donc, je n'étais pas dans le milieu entrepreneur, mais peut-être dans une éducation qui a fait qu'on est devenu entrepreneur, puisque mes trois frères sont tous entrepreneurs.
D'accord, c'est fou, hein, dans des univers...
Dans le tard, très différent, sur le tard. J'ai un frère qui a été agriculteur, exploitant en Argentine pendant 10-12 ans. Il s'occupait d'une estancia là-bas, et là, il est revenu en France et il a créé une boucherie.
D'accord, super.
Qui s'appelle la boucherie du Perche, et il importe, il y a aussi cet amour du Perche, en fait, je me rends compte. Et voilà, il fait une viande un peu particulière avec son expérience à Argentine. Il se trouve rue Claire à Paris, d'ailleurs. Et mon autre frère, lui aussi, a monté un truc qui s'appelle Marin d'eau douce. Vous connaissez peut-être, c'est Marin d'eau douce. Mon frère, il a 10 ans de moins que moi, et un jour, il a répondu à un appel d'offres de la mairie de Paris et ils ont ouvert leur première base de bateaux électriques sur les canaux à Paris.
Ah, j'en ai entendu parler.
Voilà, et maintenant, ils ont 7-8 bases à Strasbourg, à Lille, à Meaux et compagnie.
Et le dernier des frères ?
Non, le dernier, c'est une sœur.
D'accord.
Mais bon, quand on a trois frères, la sœur peut être un frère aussi. Et ma sœur, ils ont créé une petite marque qui s'appelle... Enfin, une petite marque, non, une jolie marque qui propose du sommeil français. Ça s'appelle Le Matelas Français.
D'accord, très bien, voilà. Ouais.
Et c'est pas des marchands de sommeil. Hein. Ils vendent des beaux matelas fabriqués en France. Et qui desservent une hôtellerie un peu de luxe.
Il y a du sens, mine de rien, dans les projets de chacun des enfants, de la famille.
Ouais, peut-être l'une. Il y en a un, voilà, tourisme, l'autre, c'est gastronomie, on va dire. Et la dernière, c'est le sommeil. Ouais. À nous
et,
tous,
toi, et toi, finalement, tu es un peu le...
Le loisir, peut-être.
Bah, y a le sommeil parce qu'on dort mieux quand on est à la campagne. Y a les bons produits de la campagne. Y a le tourisme et les...
Ouais, les activités, peut-être. Mais eux, deux d'entre eux, ça a été après 10 ans d'autre chose.
Okay.
Ils sont venus tard, à 40 ans, sur le côté entrepreneuriat.
Mais toi, ça a été tout de suite.
Ça a été un peu dès le début, parce que dans une famille, peut-être quand vous êtes l'aîné, vous êtes celui qui casse les codes, qui pousse les portes, qui peut avoir des moments un peu houleux avec les parents, parce que c'est le plus dur, et le premier ado, et le premier truc. Et nous, ils nous ont toujours élevés un petit peu à la dure, enfin, avec un côté très amour, on a toujours su qu'on aurait toujours la porte ouverte à la maison. Mais c'était tout ce qu'on avait. On aurait toujours une chambre à la maison, ce qui est génial. Moi, j'ai dû rester jusqu'à 30 ans chez mes parents. Ou en tout cas, avec une chambre là-bas.
Tanguy ?
Ouais, Tanguy, un peu. Mais par contre, si on voulait aller au sport d'hiver, il fallait qu'on se le paye. On devait aller quelque part, il fallait toujours qu'on trouve par nous-mêmes, on n'avait pas spécialement d'argent de poche et tout. Et c'est ce qui nous a amené à tous cultiver un peu l'univers de la débrouille et dès 15-16 ans, faire des babysitting, puis après des petits business, puis après ceci, puis cela, et toujours se débrouiller. Et c'est ça qui a amené peut-être ce côté un peu peut-être entrepreneur, on va dire.
Tu avais fait quoi comme études ?
J'avais été très mauvais à l'école. J'ai enchaîné les écoles.
D'accord.
J'ai fait une depuis la cinquième. Au début, j'avais fait ce qu'on va dire, j'étais dans des écoles qu'on peut dire des bonnes écoles, et puis après ça a été la dégringolade. Chaque année je changeais d'école. J'ai passé mon bac en cours du soir aux oiseaux.
Ouais.
Et j'allais en cours de 7h du soir, 19h à 23h, et la journée j'étais livreur de pizza pendant cette période pour pouvoir me payer ma vie et en parallèle continuer à faire des études et à savoir passer mon bac. Donc j'ai passé mon bac en cours du soir.
C'est hyper courageux. Hein,
À 22 ans, j'avais déjà redoublé 4 fois. Voilà.
Mais tu t'as tenu bon, donc c'est... Et après, donc après, quand t'as eu ton bac, t'as dit j'arrête les études.
Non, je pensais que je l'aurais pas, donc je m'étais inscrit dans un truc qu'on appelle le BTS, et en BTS, on peut faire sa première année sans son bac.
Ok.
Et il se trouve que je l'ai eu, j'ai quand même fait ce BTS, et puis voilà, fait un BTS de commerce, mais j'avais toujours en parallèle des activités. C'est-à-dire en BTS, je travaillais déjà dans un groupe, une boîte de potes de jeux vidéo, et j'étais... comme si c'était moi qui l'ai monté, il se trouve que non, mais on était dans cette ambiance un peu entrepreneur. Et ensuite, j'ai tout de suite monté StratEvent.
Comment ça t'est venu, cette idée, du coup, d'ailleurs, de StratEvent?
C'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu... il fallait que je crée quelque chose. Mes copains l'avaient fait. Voilà, qu'est-ce que je savais faire? Je voyageais, j'avais pas mal voyagé. Donc il y avait j'avais la possibilité d'ouvrir quelque chose qui aurait pu être de l'import-export, du voyage. Je m'étais dit, tiens, je serais peut-être capable de faire ça. Donc j'avais pensé à ça. Et sinon, ce que j'avais pas mal fait aussi pour la débrouille, c'est que j'avais commencé à organiser ce qu'on appelle des soirées, où je faisais venir des gens et je touchais une participation, une commission dans le lieu dans lequel j'organisais ça. Les gens m'avaient un peu connu comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, des acteurs reconnus de ce milieu-là avaient commencé avec moi. Et aujourd'hui, ils ont des gros groupes qui marchent très bien dans l'entertainment, la nuit et compagnie. Et voilà, moi, j'avais commencé comme ça en faisant des soirées dans des boîtes. Et donc, quand il a fallu se dire, tiens, c'est un métier, faire des soirées dans des boîtes, non, ça ne pouvait pas être un métier vu mon environnement parental et tout.
Ouais, ce n'était pas quelque chose envisageable pour,
non, pas trop,
pour ta famille.
Boîte de nuit, voilà. Et donc, par contre, il y avait l'aspect événementiel. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de développer de l'événementiel et de l'événementiel pour des entreprises qui faisaient plus sérieux. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai créé StratEvent, mais avec aucune idée qu'une boîte pouvait avoir une valeur. C'était juste, je m'étais dit, bon, bah voilà, je vais essayer de vendre un événement, puis il y aura une petite marge, et puis d'une autre petite marge, il y aura une autre petite marge, et peut-être qu'un jour, je pourrais me prendre un SMIG. Et puis, assez vite, on s'aperçoit à la fin de l'année que ça commence à fonctionner, et puis que la deuxième année, ça fonctionne encore mieux, puis la troisième, puis après, vous commencez à être approché, et puis voilà, quoi. Et tout d'un coup, c'est là où j'ai découvert qu'une boîte pouvait avoir une valeur, pouvait avoir ce qu'ils appellent des multiples d'EBITDA, qui ne me parlent toujours pas, mais en tout cas, on est venu m'en parler. Donc voilà. Mais je ne l'avais jamais fait pour ça, et je n'avais pas conscience que ça pouvait l'être. Et là, en l'occurrence, le nouveau projet, je ne pense pas qu'il soit dans cette veine-là. Enfin, y a un projet, il y a une belle chose, il y a des gens qui viennent, des gens qui sont contents, des gens qui profitent. Mais ce n'est pas une structure, je pense qu'il se vend, en tout cas, ça n'existe pas.
Ce n'est pas l'objectif.
C'est absolument pas l'objectif, ouais. Et je ne sais même pas si c'est possible, et peu importe. De toute manière, il y a trop d'attachement pour éventuellement penser à ça. Quoi.
Donc là, maintenant, tu es à temps plein sur le Country Lodge.
Exactement.
Et tu as 4 salariés, c'est ça?
On est 7 maintenant.
7, d'accord.
Ouais, il y a 7 personnes. Et
qui se partage entre le Perche et Paris?
Non, il y a une personne qui est à Paris avec moi, Iris, qui est commerciale à Paris. On essaye de mettre en place les projets, de les lancer, notamment la partie événementielle.
Okay.
Et puis toute la partie, il faut recruter, trouver du monde, trouver des gens pour se faire connaître. Quoi,
ouais. En fait.
Se faire connaître et puis mettre en place un peu des process pour quelque chose qui est un peu nouveau. Et après, sur place, il y a 5 personnes. Il y a 2 personnes qui s'occupent de remettre en état les cabanes après le passage des gens et puis d'organiser un peu la vie au Country Lodge. Donc la vie, on va parler de la vie intérieure, c'est-à-dire de tous les bâtiments, tout ce qui a été construit. Donc c'est 2 personnes à temps plein et il y a 2 personnes à l'extérieur qui elles s'occupent des extérieurs, des créations, okay. Constructions et notamment des animaux. Et aussi de recevoir... et après, tout le monde s'occupe. Après, il y a une responsable qui, elle, coordonne un petit peu tout ça et qui va être responsable du domaine, qui est Corinne. Et après ça, on participe tous à l'accueil, c'est-à-dire à l'accueil et au pic d'activité. Quand les gens sont là, il faut les recevoir.
Ouais. Toi, tu y vas à quelle fréquence, du coup?
J'y suis 4 jours par semaine, on va dire.
D'accord. Voilà. Donc, c'est quand même un gros rythme.
Ouais, 4 jours par semaine, dont le week-end.
D'accord. Et ta femme et tes enfants te rejoignent tous les week-ends?
Ma femme et mes enfants me rejoignent la plupart des week-ends.
D'accord.
Et de temps en temps, on essaye, et c'est important, et c'est vital, d'aller ailleurs.
Ouais, de faire votre...
Donc voilà, j'y suis 4 jours par semaine, 2 à 3 week-ends par mois.
D'accord.
Et sinon, on essaye d'aller ailleurs pour pas être tout le temps dans le projet.
On dit que dans les accomplissements, les gens qui sont accomplis et sereins de leur projet, souvent c'est qu'ils accomplissent les rêves de quand ils étaient enfants. Toi, tu étais quoi comme type d'enfant ? Donc tu disais, bon, quand tu étais ado, t'adorais aller camper.
Quand j'étais ado, j'adorais faire la fête. et après, j'adorais au sein de la fête aller à la campagne, aller camper et voilà.
Et plus jeune, quand tu étais petit, tu disais
quand j'étais petit, j'aimais la campagne, la nature. Je sais plus ce que je disais quand j'étais petit, mais ça pouvait être éleveur, c'est sûr. J'ai toujours eu beaucoup d'animaux, je faisais de la reproduction. Il y a un moment où ma chambre, c'était un aquarium, mais c'était pas un petit aquarium, c'était il y avait plus d'eau dans ma chambre que d'air, et je faisais reproduire tout type de poissons, de toutes espèces. Et puis dès que j'allais à la campagne, je faisais la même chose d'ailleurs. J'ai toujours eu des volières à pigeons, à faisans, à des canards, tout le temps. Voilà, donc j'étais assez, pas dynamique, c'est pas le mot, mais...
T'arrêtais pas.
Ouais, voilà, j'étais assez actif, et ouais. Notamment les week-ends.
Et si tu vois, si le petit Arnaud de 6 ans te voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait, tu penses ?
J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, mais effectivement, le petit Arnaud de 6 à 15 ans, s'il me voyait, il se retrouverait complètement. Ouais. Il se retrouverait complètement. On adorait vivre dehors, et c'est ce que je fais là-bas. Et on adorait partager, parce que tout s'y retrouve un peu. Là-bas, on y retrouve l'événementiel, l'accueil, on y retrouve la fête, parce qu'on organise des fêtes. On y retrouve le partage, on y retrouve la famille, parce qu'on reçoit énormément des familles. Donc ouais, on y retrouve un petit peu tout, et un petit peu tout ce que le petit Arnaud, sans doute, aimait. Ouais.
Et dans ce projet, est-ce que tu as eu, y a eu des moments de doute, de peur ?
Oui, je pense que dans tout projet, il y en a eu plein, c'est est-ce que ça va passer ? Il y a toujours un peu le côté autorité qui fait peur, sur des projets comme ça, je veux dire un peu hôtelier, est-ce qu'on va m'autoriser ça ? Est-ce que ça va passer ? Est-ce qu'ils vont en avoir envie ? Puis après, ça c'est la première phase, les autorisations, la peur de côté État, et après ça, il y a trouver les sous, et l'équation financière. Est-ce que tout ça ne va pas coûter plus que ce que ça ne, rapporte ? Et donc, est-ce que ça va s'équilibrer ? Donc ensuite, il y a l'aspect d'équilibre, puis après, il y a l'aspect comment va le recevoir le public, et est-ce que le public va adhérer, suivre voilà. Et toutes ces murs, ou ces barrières, ou ces peurs se sont évanouies petit à petit. Je pense que s'il y en avait une qui était restée, le truc se serait arrêté, quoi.
Ouais.
Un, pas d'autorisation, fini, au revoir. Deux, pas d'argent, fini, au revoir. Et si on avait eu tous ces trucs-là, et que tout d'un coup, pas de clients et des gens qui disent que c'est naze, on continue pas. Et voilà. Et je peux le dire aujourd'hui, toutes ces barrières sont éteintes et sont effondrées, en tout cas, on les a bousculées et on les a passées. Et maintenant, l'endroit existe, il est beau. Et c'est le plus génial, c'est que j'ai l'impression qu'il plaît. Les gens viennent, il peut se passer un week-end de pluie où je me dis « Oh mince, comment on va gérer ça ?» Et les gens repartent en disant « Ah, c'était super, ouais, ok, il pleuvait, mais nous, non, on était au coin du feu, on a fait ceci, il y a ça qui a changé. » Il y a le côté évolution par rapport aux enfants, il y a le côté quasiment évolution par rapport même au couple. Là, j'ai reçu un mail adorable d'une dame, et on en reçoit souvent, qui dit presque comment sa vision des choses a changé après 3 jours de week-end là-bas.
Génial.
Assez génial. Et puis ils reviennent. Ils reviennent tellement que maintenant, de plus en plus, les gens ont des malles chez nous. on leur laisse une malle qui est une malle à leur nom, et ils laissent leurs affaires. Et effectivement, ça aussi, c'est...
Ils veulent toujours la même cabane ? Non.
Le jeu a été de... On n'attribue aucune cabane.
D'accord.
Les gens réservent une cabane, puis ils ne savent pas où elle sort. Après, oui, ceux qui sont déjà venus disent de temps en temps un petit commentaire. Tiens, j'aime mieux celle-là pour ceci ou ça, ou j'aimerais bien être là ou là. Mais on ne peut pas se permettre, parce qu'on ne sait jamais Si tout d'un coup il y a un groupe de 4 familles, de copains qui réservent un truc, faut qu'on puisse.
Qu'il soit à côté.
Mmh. Voilà, donc nous, chaque jeudi, c'est le jeu du Tetris et on regarde qui couche avec qui fait quoi, qui va.
Vous avez tous les détails.
Ouais, tous les détails. On essaie d'emmagasiner les détails. Non, donc voilà, et on place les gens le plus intelligemment possible pour si il y en a qui sont susceptibles de faire du bruit, ils soient plus
par là. Tranquille.
Si, ça, mmh. Voilà.
Là, c'est quoi tes nouveaux challenges, maintenant que ça marche? S'il y a des nouveaux projets?
Ça commence à marcher,
ouais.
Parce que moi, je suis insatisfait. Hein.
D'accord.
C'est pas encore parfait. Donc là, c'est de parfaire un peu, on va appeler ça l'expérience client, c'est-à-dire de l'arrivée au départ, ce qu'ils y trouvent, même si on a un lieu qui est avant tout, parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, on n'a pas tellement détaillé, on n'a pas expliqué, donc on est un lieu qui on a 24 cabanes. C'est 24 cabanes et on a plus de 100 lits qui sont des cabanes dans une clairière avec une vue incroyable et plein d'animaux en liberté partout et plein de choses accessibles. On va plutôt être dans un endroit où c'est ni Disney ni la bulle de Center Park. Les enfants vont jouer avec des arcs, des flèches, une boîte de conserve, des animaux. Il n'y a pas le wifi, en tout cas pas le wifi apparent pour les enfants. Il y a des lieux de vie, de communauté où on peut se retrouver tous ensemble, à lire un livre, boire un verre, écouter de la musique, ce qu'on va appeler notre lounge, le grand salon. Et puis disséminer autour des cabanes où se retrouve la cellule familiale, tranquille, au coin du feu, avec sa vue, une vue assez pure, et dans un endroit qui est très pur, loin des ondes, de quelques bruits que ce soit, de quelques lumières artificielles électriques. Une fois que nos lumières à nous s'éteignent, on voit les étoiles toute la nuit. C'est un peu cet endroit, et c'est un endroit où les gens viennent en autonomie, c'est-à-dire ils sont responsables d'eux-mêmes, un peu comme s'ils allaient à la campagne chez leurs grands-parents. Je veux dire, on précise bien aux gens qu'ils sont responsables de leurs enfants, responsables de ce qui s'y passe, qu'il y a des ronces, qu'il y a des barbelés, qu'il peut y avoir de l'eau, qu'il peut y avoir
des
animaux, qu'il peut... Mais que malgré tout, leurs enfants craignent rien, puisqu'il n'y a aucune voiture.
Ouais.
Les voitures restent à l'extérieur. Et aussi, on a un lieu où tout est en confiance et tout est en libre service. Il y a 50 vélos, qui veut les prend. Il y a des voitures limite en libre service. Il y a des bottes pour tout le monde. Et c'est ça qui est assez sympa, c'est que les marques aussi nous ont suivis.
Vous avez fait des partenariats que vous avez fait avec...
Ouais, avec différentes marques. La marque Elle, la marque Aigle. Aigle nous a offert les bottes pour le Country Lodge Kawe nous a donné 50 Kawe pour que tout le monde puisse avoir un Kawe. Ou des marques qui ont des vélos électriques familiaux, ouais. Type Yuba, nous ont donné des vélos un peu en démonstration. Ou BMW, la Mini, nous a donné une Countryman. On part où ce week-end? On part au Country Lodge.
Avec une Countryman.
Avec une Countryman. Voilà.
Donc ça, c'est des partenariats que vous avez sollicités ou ça s'est arrivé
Les deux. Les deux ou des hasards. Finalement, les gens de ces marques sont venus par hasard en D'accord. tant que clients et en voyant le truc, on dit
« Ah, ça peut
ah
être
tiens, ouais. Nous, on aimerait bien s'associer à ça. Nous, on voit bien, on partage un peu vos valeurs, le truc. Le Aigle qui dit « Réintroduisons l'homme dans la nature », à une époque, c'était leur truc.
Ouais.
« Réintroduisons l'homme dans la nature », c'est un peu notre truc aussi. Le On part où ce week-end, qui était la headline de la Mini Countryman, On part où ce week-end, c'est aussi ça. Nous, ouais. Tous les week-ends, on part de Paris. Voilà, et des marques qui s'y sont retrouvées, ou Yuba, qui est un triporteur sur lequel. Un vélo cargo sur lequel on peut mettre 3 enfants. Moi, j'emmène 3 enfants le matin en vélo à l'école, les 3 là, sur le même porte-bagages.
D'accord.
Voilà, ils ont compris leurs produits.
Super. Quand on fait des choix, il y a des renoncements. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette phrase, dans ce projet?
Non, elle ne me parle pas énormément, parce que je n'ai pas fait beaucoup de... Oui, on renonce. Sur ce choix-là, effectivement, moi, c'est très chronophage. Donc, par moment, je regrette de ne pas pouvoir consacrer plus de temps, en tout cas de temps one-to-one, parce que famille, enfants et tout ça, on est beaucoup ensemble, mais de temps consacré totalement l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup, ils vont me suivre, ils vont m'aider à faire un box, courir avec moi, courir autour de moi, mais on n'est pas assez en train de jouer au foot tous les deux, quoi.
Ouais.
Ou de jouer au tennis tous les deux.
Des moments un peu plus privilégiés.
Voilà. Ouais. C'est ça, effectivement, je dois souvent me partager entre... voilà, le matin, souvent, bah, je me lève et je prends pas le petit-déj avec eux parce que je dois m'occuper des animaux. Et bon, ça, c'est, voilà, ça, c'est un peu des, ça peut être un peu des renoncements. Puis finalement, je me retrouve dans un métier où, qui est un peu le métier de l'hôtellerie, où toute la semaine, on travaille à préparer. Puis finalement, quand les autres sont en week-end, bah, nous, c'est le moment où tout le monde est là. Alors bien sûr, on reçoit énormément de... on reçoit pas mal de séminaires d'entreprise. Donc, ça, mais, donc finalement, c'est du 7 jours sur 7, ouais. Un peu. C'est peut-être ça, le renoncement pendant un temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je me souhaite, c'est que... ça se structure de plus en plus et de pouvoir plus intervenir sur, sur, juste sur les, certaines autres parties ou sur le développement d'autres projets. Le même, hein, mais un autre Country Lodge ailleurs, puisque, puisqu'il plaît, quoi. Puisque ça plaît.
De quoi tu es le plus fier aujourd'hui ?
De ma famille. Voilà, moi, c'est très famille de ma famille, de ma femme, de mes enfants. Après, oui, par moments, je regarde le chemin parcouru depuis le mauvais élève qui s'est fait virer d'école non-stop et on ne voulait pas entendre parler. Et après, certains, les directeurs de ces mêmes écoles qui, 4 ans plus tard, vous appellent « Ah, monsieur Douin, prenez nos stagiaires. Ah, est-ce que vous ne voulez pas venir intervenir en conférence pour ceci ou cela ?» Ouais, voilà, ça, c'est, à un moment, c'est un petit peu une revanche et donc une certaine fierté. J'y vais, non, bah, comme vous voyez, je suis pas un expert dans la parole, mais en revanche, oui, j'ai pris beaucoup de stagiaires et beaucoup, et même embauché des gens de d'école ou de choses comme ça. Non, je vais plus intervenir, peut-être plus, quelquefois sous forme de don à des assos, quand l'entreprise marche bien, ou plutôt s'entraider, là, notamment avec le Country Lodge. Je pense qu'aujourd'hui, le Country Lodge marche bien, mais tout autant que nos partenaires vont bien marcher. Et quand je parle de nos partenaires, je parle de nos partenaires locaux. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un petit tissu économique qui se met en place autour du Country Lodge, qui est assez sympa à voir.
C'est un petit marché qui vient s'installer ?
Non, il y a un maraîchage à côté. On travaille ensemble. Il y a une chèvrerie à côté qui reçoit, les clients vont souvent retrouver, vont à la traite des chèvres et achètent des produits là-bas. Peut-être les restaurants autour de nous reçoivent beaucoup de nos clients, ouais. Le marché du village.
Parce qu'on ne peut pas se restaurer, on peut se faire à manger dans le Country Lodge ?
Il y a tout ce qu'il faut dans les cabanes pour se faire à manger, donc ouais. C'est l'idée d'une autonomie. Mais nous, on n'est pas, des Allemands. Hein.
Pourquoi ?
pour rappeler chez Candy. Ouais. On n'est pas en tongue. Non, je pense plutôt aux Hollandais qui, quelquefois, arrivent dans des lieux en France avec des voitures pleines et ouais. Qui ne vont jamais acheter quoi que ce soit sur place, à part l'hébergement. Nous, on propose l'hébergement, mais dans l'hébergement et dans notre proposition, il y a tout ce qu'il y a autour. Et c'est avant tout de les faire sortir. Je veux dire,
on n'est pas au Club Med, quoi.
On n'est pas au Club Med, on n'est pas dans tout un inscrit. On a des chevaux, on a des poneys à gogo, mais aujourd'hui, je ne suis pas un centre équestre. Mm-hmm. Donc, personne ne monte à cheval chez nous.
D'accord.
On s'en occupe, mais voilà. Et en revanche, le centre équestre juste à côté reçoit, et sait très bien le faire, reçoit tous nos clients. Aujourd'hui, il y a une brasserie qui s'est ouverte au fond des bois à côté de chez nous, qui fait sa bière. Ben, les gens, ils vont en vélo. Donc voilà. Donc, l'endroit où on a construit le Country Lodge, ça s'appelle une zone de revitalisation rurale, ZDR, c'est une appellation. Parce qu'il ne s'y passe pas grand-chose, il n'y a aucun investissement, ou pas beaucoup. Et voilà, à travers ce projet, bah, je pense qu'on a un peu redynamisé, on dynamise en tout cas certains pans de l'économie, avec des achats. Il y a un boucher pas loin aussi qui livre tous les jours.
Les gens font leurs courses pour ramener à Paris ?
Ça, ouais. Je pense que ça arrive, ouais. Les gens font leurs courses, ouais. Et en tout cas, moi, je le fais. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Je ne supporte pas les grands supermarchés, les grands centres commerciaux. C'est vraiment une expérience pour moi. Ça me donne des boutons. Et donc, effectivement, je fais mes courses là-bas et je pense que certains le font aussi. Commandent un petit peu plus et repartent avec.
Si on te dit que tu as de la chance aujourd'hui, comment tu réagis ?
Oui, j'ai de la chance. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Je suis en pleine forme. Tout va bien. Voilà, j'ai une famille dont je suis très très heureux, avec qui je suis très heureux. Tout va bien.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que tu aimerais donner du coup aux autres ?
Non, mais c'est... ouais, quoi, croire en soi, croire en sa petite étoile, oser y aller. Voilà, peut-être moi dans mon éducation perso ou familiale, finalement, il y a un côté jamais rien lâcher, quoi. J'ai toujours jusqu'au bout, et tant que le truc n'est pas réussi, je suis pas content et je lâche jamais. Et peu importe si je travaille 22 heures, enfin peu importe. Et il faut juste y arriver. Et il y a ce côté ne jamais rien lâcher, croire en son étoile, oser y aller, s'écouter, mais également, et vraiment également, et ça c'est le côté entrepreneurial, savoir arrêter aussi. Parce qu'on voit souvent des gens qui veulent lancer des projets, et il y a un moment où il faut savoir dire j'arrête, ça ne marche pas. Mm. Et je vois beaucoup de gens qui, quelquefois, continuent éternellement, ils s'acharnent. Et voilà, il y a un moment où il faut que ça décolle, je pense. Hein.
Et avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi ?
Bah, j'ai envie de dire merci à tous les gens qui nous ont fait confiance. C'est assez simple. Aussi à tous les gens qui n'ont pas fermé de porte. Hein. Je veux dire, c'est aussi bien... aux élus, au moment de la communauté de communes où on propose un projet et qu'ils le refusent, aux acteurs territoriaux, aux personnes qui donnent les permis de construire, on a très vite des petites jalousies, des machins, mais qui quoi, et tous les projets qui s'arrêtent. Et en France, c'est quand même très, très, très dur de ce point de vue-là. Et là, on a trouvé que des gens sensés, sympas. Voilà. On n'est pas tombé sur le gros con, où que ce soit. Il y en a eu, hein, des cons. On en a vraiment rencontré. Ouais. Mais... grâce à tous les autres qui étaient positifs, fervents et tout ce qu'on veut, bah les gros cons, ils sont éteints, quoi. Ils sont éteints tout seuls. Donc voilà, tous ceux qui nous ont fait confiance, et puis bien sûr ma femme qui m'a soutenu, parce que c'est pas facile, hein, honnêtement, quelqu'un qui est jamais là, ou quand on part tous les vendredis avec trois enfants dans une petite voiture et qu'on arrive et que le mec est pas là et qu'il est encore en train de s'occuper des clients, et qu'on... voilà. Donc ça aussi c'est important, mais voilà, donc je remercie eux, et puis depuis toutes ces personnes, et depuis je remercie nos clients, tous ceux à qui ont fait plaisir et qui viennent et reviennent, et bien sûr aujourd'hui je remercie aussi mon équipe qui elle a voilà, au début on comptait pas notre temps sur ce projet, on s'est dit c'était en fait on a construit une ville, hein. C'est devenu une petite ville dans la ville qui est invisible, mais ça reste, c'est quand même une ville. Et parti de rien, sans moyens et sans fonds d'investissement, comme vous avez dit, et voilà, on a beaucoup mis notre personne, et on continue à le faire, puisque ça reste de l'hôtellerie, et on trouve notre satisfaction dans les retours clients et dans les expériences vécues, ou dans les enfants, quand les parents nous disent tiens, ils ont changé. Et nous on le voit bien, hein, sur un week-end, entre le moment où ils arrivent et ils sortent de la voiture et ils restent collés, accrochés aux chaussures de leurs parents, et qu'après les parents nous disent ah, je sais plus où ils sont, et c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, on trouve notre reconnaissance aussi là-dedans.
Merci beaucoup Arnaud.
Merci.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu, vous donnera envie d'écouter votre petite voix, de vous bousculer un petit peu pour sortir de votre zone de confort. Rendez-vous sur Instagram, pourquoipasmoi.podcast, ou sur mon site internet pourquoipasmoi.co pour découvrir en images les objets d'Arnaud et toutes les informations pour découvrir un peu plus le Country Lodge. Si comme Arnaud, vous êtes novice dans l'écoute d'un podcast, sachez que j'ai besoin de vous pour permettre de faire connaître Pourquoi pas moi. Comment m'aider ? C'est tout simple. Abonnez-vous sur Deezer ou Spotify et ou mettez 5 étoiles, c'est encore mieux, sur Apple Podcast. Si ce n'est pas clair, je vous explique tout sur mon site web. Je vous dis à jeudi prochain pour le 7e épisode de Pourquoi pas moi ?